mercredi 4 décembre 2024. Nous sommes dans l'émission Livres et Amis avec Dominique et Françoise au micro, avec Tatiana à la technique. La Terre tourne toujours aussi mal, mais bon, le ciel est bleu sur Marseille. Hier, c'était vraiment l'hiver, là, le gros coup de Mistral bien glacial, ça nous a un peu secoué, mais enfin, ça y est, on a sorti les écharpes, les gants, comme les gens du Nord, ça arrive parfois. Mais enfin bon, on a bien besoin d'un peu de douceur. Je vous signale qu'à Radio Galère, il fait bon, il fait chaud, on est bien. Donc on vous envoie de notre douceur, de notre chaleur, de notre communication. On a envie de partager plein de choses avec vous. Et ben voilà, on est bien ensemble avec notre douceur locale et... Et quand on pense à nos amis de Gaza, de Beyrouth ou d'Alep, avec les bombes qui leur tombent sur la tête, ben, excusez-nous, on est bien chez nous, voilà. C'est affreux ce qui se passe partout, et on est quand même content d'avoir le bleu du ciel et les rayons de soleil et la chaleur des sourires là de l'autre côté de la vitre. Merci Tatiana. Merci Tom là-bas tout à l'heure qui nous a dit, c'est vrai, qu'il faisait bien chaud à Radio Galère. Et merci tous les autres avec qui on travaille tout le temps. On avait demandé des sous, vous vous en souvenez peut-être, pour continuer à être à flot à Radio Galère. Je crois que ça a quand même assez bien marché, cette collecte de fonds. On vous en parlera prochainement. On va essayer de voir un petit peu, effectivement, de conclure cette affaire. Et puis, c'est quand même la période des fêtes de fin d'année et des dons pour les associations. Donc, moi, je fais des dons à des associations marseillaises. Et pensez donc, si vous en avez envie, à envoyer quelques sous à Radio Galère. Il y a toujours sur le site, là... en haut à droite de l'écran, je crois, de quoi donner des sous, participer toujours au financement de notre petite radio, qui en a bien besoin, puisque c'est aussi un des problèmes de la culture. Il y a en ce moment une pétition de soutien à la culture qui circule. Étant donné que le gouvernement nous serine que nous avons un gros déficit et qu'il faut faire des économies, le gouvernement il fait des économies sur le dos des collectivités locales. Et les collectivités locales, quand elles n'ont pas beaucoup de sous, elles commencent par restreindre quoi ? Le budget de la culture. Alors, vous savez, les associations théâtre, les associations radio, les associations culture en général... se retrouve avec se serrer la ceinture au programme. Et donc, ne manquez pas, si vous en avez l'occasion et si vous avez 3 sous, ne manquez pas de donner aux associations culturelles de la ville, aux associations sociales de la ville, parce que malheureusement, la ville de Marseille n'a pas beaucoup de sous et donc a bien du mal à financer tout ça, alors que c'est notre vie locale et notre vie associative et donc notre vie conviviale ensemble qui marche avec les associations, justement. Voilà, alors j'y reviens. C'est les fêtes de fin d'année. Ah ouais, d'accord. Il y a des lumières partout. Ça, c'est pas mal. Hein. Les réjouissances sur programme, ça fait un peu râler. Enfin, les réjouissances à la commande, là, c'est les fêtes, tout va bien. Non, pas vraiment. Mais quand même, les petites lumières, je trouve que ça fait plaisir. Les illuminations du vieux port, des rues, des places, c'est quand même chaleureux. Ça compense justement les jours qui raccourcissent, le soleil un peu pâle, enfin bref. Donc... c'est pas mal d'avoir des petites lumières. Et côté merveille de fin d'année, je vous signale quand même que le cinéma nous offre justement quelques merveilles, quelques pépites pour se faire là encore un peu chaud au cœur. J'ai vu tout récemment En fanfare à l'Alhambra. Ça passe à l'Alhambra, ça doit aussi passer dans d'autres cinémas. C'est bien en fanfare aussi pour se faire chaud au cœur. Bon, malheureusement, c'est dans le nord de la France et avec tous les problèmes du nord de la France, les usines qui ferment, les gens qui n'ont pas de boulot, les trucs comme ça. Mais quand même, c'est des gens qui vivent ensemble. Et justement, comme je disais tout à l'heure, ça fait chaud au cœur, la vie ensemble et le fait de pouvoir se réchauffer avec l'amitié et la vie associative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres pépites, là. Il y a, ah oui, pour aller avec vos enfants au cinéma ou vos petits-enfants, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, eh ben, c'est bien et c'est intelligent. Donc, ça fait plaisir. Et puis, il sortira...
Passe au Gyptis, je crois.
Oui, Flo, ça passe aussi à l'Alhambra, au Gyptis, etc. Ah oui, alors, à l'Alhambra, il est passé un film une fois. Je ne sais pas si ça va passer ailleurs. Ça s'appelle « Béziers, l'envers du décor ». Et c'est sur... la vie quotidienne du Front... Ah non, ça ne s'appelle plus le Front National, ça s'appelle le Rassemblement National. Donc, vous savez, il y a Ménard qui est maire de Béziers depuis maintenant 10 ans. Et donc là, ce film, Béziers, l'envers du décor, ça montre vraiment la vie d'extrême droite au quotidien. Donc ce qui se passe quand... on fait du catholicisme intégriste quand on ne veut pas des musulmans, quand on ne veut pas des étrangers, quand on ne veut pas donner de l'argent pour les cantines, quand on veut enlever les livres intéressants des bibliothèques, etc. etc. Donc, si vous avez l'occasion de voir Béziers, l'envers du décor, ou de le faire connaître autour de vous, le Front National, enfin, je veux dire, l'extrême droite au quotidien, c'est quand même super intéressant de voir qu'effectivement, ça fonctionne comme l'extrême droite au quotidien. Donc, ça fait pas plaisir, mais au moins, c'est pas idiot. Et puis, d'ici la fin du mois, il va sortir un film aussi américain intéressant qui s'appelle « The Wall ». Qui est sur la frontière mexicano-américaine et sur justement ce qui se passe sur cette frontière. Et il va sortir aussi un nouveau film de Raoul Peck qui s'appelle Ernest Cole, photographe. Alors ça, j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler, mais enfin, si j'oublie, Ernest Cole, c'est un des grands photographes américains qui a montré l'apartheid comme c'était aux États-Unis, c'est-à-dire la ségrégation, etc. Et ça sera super intéressant d'aller le voir. Ça va sortir à la fin du mois de décembre. Alors, revenons aux livres, revenons aux auteurs et parlons, par exemple, aujourd'hui, de l'Algérie et des Algériennes. Beaucoup d'amis ici, bien sûr, sont nés ou ont des attaches au sud de la Méditerranée. Et beaucoup d'entre eux donc, me signalent ou me suggèrent assez souvent des ouvrages qui en valent la peine. Et aujourd'hui, justement, nous allons vous lire les extraits d'un livre qui a été suggéré par Youssef. Vous savez, Youssef, il est venu une ou deux fois ou trois fois lire des choses avec nous à l'antenne. Et là, il m'a signalé ce livre assez étonnant d'une auteure ou autrice algéro-israélo-américaine. Oui, bizarre, allez-vous me dire. Eh bien oui, tout à fait bizarre, ses origines, mais ce qu'elle revendique comme origine et aussi ce qu'elle écrit comme livre. Le livre s'appelle « La résistance des bijoux » et il est sous-titré « Contre les géographies coloniales ». C'est un livre de Ariella Aïcha Azoulay. C'est des gens qui ont des triple A, comme le Crédit International. Donc, triple A, Ariella Aïcha Azoulay, La résistance des bijoux. Je vais vous lire la quatrième de couverture, vous comprendrez peut-être mieux. À la mort de son père, juif d'Oran, naturalisé français du temps du colonialisme, puis israélien du temps de la création d'Israël, Ariella Aïcha Azoulay découvre dans un document familial que sa grand-mère, justement, portait le prénom Aïcha. En deux parties de ce livre mêlant autobiographie et théorie politique, l'autrice serpente entre les catalogues de bijoux, les documents familiaux et les photos retrouvées dans les armoires familiales et les collections d'objets pillés dans les musées occidentaux pour déployer par fragments l'histoire de sa famille et l'histoire de la Méditerranée et pour mettre en parallèle le colonialisme français en Algérie et le colonialisme sioniste en Palestine. Entre ses projets impériaux, elle saisit bien les continuités, à commencer par la volonté obstinée de détruire l'enchevêtrement séculaire des mondes juifs, arabes et berbères, un entrelac qu'elle revendique pour mieux le restaurer. Alors, ben oui, vous avez compris, il s'agit de dire que arabes, juifs et berbères, effectivement, ils ne sont pas du tout ennemis, ça, on le sait. Mais en plus, ils ont tellement vécu ensemble qu'il y a des moments où on ne démêle plus vraiment les uns et les autres. C'est donc un petit livre tout à fait passionnant. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous pousser à l'acheter. Enfin, je vais vous dire que oui, c'est une bonne occasion de l'acheter pour faire un cadeau ou pour le lire avant de faire le cadeau, bien sûr. Il coûte 15 euros, ça ne vous ruinera pas. Il est édité à 7. C'est pas loin, 7. Par les éditions Robocric. Et les éditions Robocric, je ne les connaissais pas. Je les ai découvertes à ce propos. Donc, on va aller voir ensemble, un de ces jours, là, le catalogue des éditions Robocric. En tout cas, ce petit livre est assez génial. Et en fait, pourquoi je vous dis que ça vaut la peine de l'acheter? Parce qu'il a beaucoup d'illustrations. Alors évidemment, les illustrations, je peux en parler, mais il est quand même difficile de partager à la radio toutes ces images. Toutes ces images d'un vieux monde algérien, de bijoux, berbères ou algériens ou juifs algériens. D'autres documents familiaux que nous propose donc Ariella et Chazoulet. Et tout ça, bien sûr, nous, on va vous lire des extraits, mais c'est un peu difficile de vous parler des images au fur et à mesure, même si on va essayer de le faire. Donc, La résistance des bijoux, avec son sous-titre « Contre les géographies coloniales », c'est ce dont on va vous parler maintenant. Et c'est assez drôle, en fait. Je trouve le titre est intéressant parce que, s'agissant de colonialisme français, moi, j'avais imaginé... Vous savez, on se fait toujours un peu des idées. J'avais imaginé que ces bijoux, c'était les bijoux de l'Empire colonial français. Les vieux coloniaux disaient que, par exemple, le Vietnam, c'était la perle de l'Empire. Oui, il y avait l'Empire français comme il y avait l'Empire britannique. Dans les années 50 ou 60, le Vietnam, la perle de l'Empire colonial français. Oui, d'accord. Et donc, moi, quand je vois le titre bijoux, je pense à bijoux, bijoux de l'Empire français, bijoux de la colonisation, etc. Non. La résistance des bijoux, c'est vraiment la résistance des parures, et des parures féminines en particulier. Et ici, donc, les parures des femmes d'Algérie, dont Ariella Aïcha El-Zoulet nous dit que très souvent, elles étaient fabriquées par les Juifs, puisque les Juifs installés au Maghreb étaient souvent joailliers ou bijoutiers, ou même vraisemblablement orfèvres, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient des bijoux, des objets, etc. Et à l'époque, quand même, les communautés étaient bien mélangées. Donc, bien sûr, ce qu'on appelle les bijoux du Maghreb, c'était souvent des bijoux fabriqués par les bijoutiers juifs du Maghreb. Je vous rappelle aussi, en passant, le fameux décret Crémieux. Le décret Crémieux qui date de 1870, pendant que... La République française, qui remplace l'Empire, là, juste au moment où l'Empire se fait battre par la Prusse, vous savez, la guerre de 70-71. La République française, donc, de 1870, avec Crémieux, Gambetta et d'autres, prend un décret qui, à l'époque, paraît un décret de liberté. Ce décret, c'est... la naturalisation et donc la citoyenneté automatique et officielle des Juifs d'Algérie. Vous savez sûrement qu'en Algérie, il y avait deux catégories de population. Il y avait les citoyens français, puis les autres, c'est-à-dire en fait les habitants arabes musulmans qui, entre guillemets, n'avaient pas droit à la citoyenneté française. Eh bien, avec le décret Crémieux, Les Juifs, eux, donc, les Juifs installés en Algérie, quelle que soit leur origine, qu'ils soient berbères, espagnols, levantins ou autres, les Juifs d'Algérie acquièrent automatiquement par décret la citoyenneté française. Et c'est vraiment intéressant parce que le fait que, disons, Ariella Aïcha Azoulay nous en parle, ça montre bien que c'est un effet direct du colonialisme. Et pas une libération, mais plutôt un genre de conversion obligatoire, un peu comme on avait converti les Juifs ou les chrétiens dans les royaumes arabes du Moyen-Âge, et comme on avait aussi converti de force les Juifs ou les Arabes dans les royaumes catholiques de peu après, en Espagne, au Portugal, etc. Donc la conversion qui s'applique pratiquement en même temps que la citoyenneté. On n'y avait pas forcément pensé, mais c'est vrai que le décret Crémieux, qui s'appliquait donc à tous les Juifs d'Afrique du Nord, enfin d'Algérie en particulier en 1870, c'est finalement une mesure coloniale. Et comme toutes les mesures coloniales, bah, évidemment, on peut en parler ensuite. Bref, le livre « La résistance des bijoux » fait retour sur l'histoire, en effet, mais aussi sur l'histoire privée de la famille de Ariella Aïcha Azoulay. Et c'est ça que Françoise va commencer à nous lire.
Je suis née en 1962, l'année où l'Algérie acquit enfin son indépendance du joug colonial français. L'indépendance eut pour conséquence la formation d'un nouveau corps politique constitué de la plupart des colonisés d'Algérie, à l'exception des Juifs algériens et des Harkis, deux groupes forcés à l'émigration par le colonialisme. En 1962, cette expulsion des Juifs d'Algérie vers un endroit supposé mieux leur convenir en tant que Juifs, l'Europe, en vint à être perçue comme une solution acceptable, voire même inévitable. À ce moment précis, l'Afrique du Nord s'était déjà vidée de la plus grande partie de ses communautés juives, qui furent alors incorporées à d'autres histoires qui n'étaient pas les leurs. Dans le même temps, l'histoire algérienne fut débarrassée des Juifs et sa réécriture put alors refléter une Algérie à la mémoire courte, celle qui fut façonnée par un FLN dans la lutte pour l'indépendance, culmina avec la création d'un État-nation dévolu à un peuple présumé homogène. Cela n'aurait pas pu se produire si les sionistes n'avaient pas été, depuis quelques décennies, mandatés par les puissances impériales européennes pour établir en Palestine un État-nation pour le peuple juif. Les revendications juives d'appartenance au monde musulman se devaient ainsi d'être oblitérées et leur disparition accélérée pour que puisse paraître réel le fantasme euro-américain d'une tradition judéo-chrétienne. Les sionistes s'étaient donné pour tâche de recruter une grande diversité de juifs du monde entier, dont ces juifs autochtones d'Algérie, pour en faire un peuple de colons, opérateurs de technologies capitalistes, impérialistes et raciales, dont certaines, à l'époque, passaient encore pour socialistes. Je ne suis pas née en Algérie, mais dans la colonie sioniste de Palestine. Comme mon père, je suis née dans une des usines à humains de l'Empire, né pour être quelqu'un d'autre que nos ancêtres, né pour effacer leurs blessures dont j'ignorais l'existence, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'en avais hérité, qu'elle résidait dans mon corps. Dans les usines à humains de l'Algérie coloniale, mon père fut fabriqué comme non-algérien, tout en sachant bien qu'il n'était pas français non plus. Quel que soit ce qu'il ait voulu croire qu'il était, et pendant un temps du moins, il crut être français, on lui rappela qu'il ne l'était pas. Si cette expérience a dû être difficile, j'éprouve quand même une sorte de gratitude du fait que l'infâme décret Crémieux ait échoué à complètement convertir de force mes ancêtres à la francité. Bien que mon père ne pût plus compter sur un lien déjà rompu avec le monde ancestral, il pouvait encore s'en remettre à un savoir incarné, transmis en dépit des efforts des colonisateurs. Chez lui, cela se manifesta par un rapport méfiant à l'État et par différentes formes d'indiscipline. Cet héritage de ce sensorium anticolonial, rescapé de la discipline coloniale, qui a guidé mon long cheminement hors de la vie préétablie d'une enfance de l'Empire, né dans une de ses plus récentes usines, dans la colonie sioniste de Palestine. La première langue à laquelle je fus exposée, ma langue maternelle, fut l'hébreu sioniste, en faisant place aux langues de mes ancêtres, l'arabe et le ladino, écrites en filigrane et en lettres hébraïques, car c'est ainsi qu'ils et elles les écrivaient. Je peux habiter le monde juif musulman et raconter une histoire potentielle de ce monde dans lequel j'ai été programmée pour ne pas naître.
Ah oui, avant de continuer quand même, je veux dire que ce qu'il y a d'intéressant au niveau des langues, c'est que Ariella Aisha Azoulay, elle a écrit ce livre en anglais. Parce qu'en fait, elle est enseignante à l'université de Brown, une des universités de l'Ivy League, de la côte est des États-Unis. Mais je pense que c'est une volonté de sa part de se détacher à la fois de l'hébreu, de l'arabe et du français. Donc elle écrit en anglais et son livre est traduit en français. Et quand même, évidemment, elle parle bien et couramment français. Donc elle relie la traduction et éventuellement elle a un œil sur la traduction. Mais enfin, c'est quand même intéressant qu'elle veuille vraiment se détacher de ces langues entre guillemets méditerranéennes et d'écrire en anglais, quoi.
Dans les usines à humains de la colonie sioniste, trois identités nouvelles me furent assignées: israélienne, juive et misrari, juive orientale. De même qu'une langue maternelle au travers de laquelle deux projets coloniaux ont cherché à m'acclimater et à éradiquer les éléments rebelles, moi aussi je suis rebelle, en mon fort intérieur, laissé en héritage par mes ancêtres algériennes et algériens. En Algérie, les Français avaient dû nous régénérer, mais dans la colonie, régénérés, nous l'étions de naissance. C'est en répondant aux doutes par des affirmations que ces identités imposées ont été intériorisées. Devoir constamment répondre aux questions, aux incertitudes et aux commentaires sur ces identités prouvait que nous les incarnions de façon inappropriée. Tel était le quotidien de notre cultivation comme sujet moderne de l'Empire. C'est ainsi que ces identités imposées devinrent les nôtres. Même dans sa version militante, l'identité misrahi effaçait notre appartenance au monde qui avait existé pendant des siècles et qui devait être anéanti pour que le sionisme triomphe en Palestine en détruisant la Palestine. Quand je vivais dans la colonie sioniste de Palestine, je devais souvent répondre à des questions comme « Pourquoi joues-tu à la misrahi ?» ou bien « Pourquoi n'écris-tu pas sur ton identité misrahi ?» Ces questions m'était imposée parce qu'en raison de ma formation universitaire et de mon métier de curatrice indépendante, je déviais du profil normatif supposé être celui d'une femme misrahi dans le Tel Aviv du début des années 90. En d'autres termes, je sortais de la place qui m'avait été assignée.
Oui, donc on parlait de rebelle, oui, c'est exactement ça. Ariella Aisha Azoulay, elle fait référence à son père comme quelqu'un qui était déjà un peu rebelle à la colonisation française en Algérie. Et elle, finalement, elle apparaît aussi comme assez rebelle à cette colonisation sioniste de la Palestine, puisque elle réfute cette idée d'Israël comme, entre guillemets, patrie de tous les Juifs. Elle dit bien, là encore, qu'il y a une, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une société à deux vitesses, qu'il y a les juifs ashkénazes fondateurs, en effet, de la patrie sioniste juive, et puis les misraïs, donc les misraïs qui, en tant que juifs orientaux, sont un peu des juifs de deuxième catégorie, quand même. Alors, elle ressent cette deuxième catégorie. Et en même temps, elle se rebelle contre, bien sûr. Elle nous dit, par exemple, « La première question jouée à la misrahi m'était posée par des ashkénazes qui supposaient que je prétendais être ce que je n'étais pas. Il et elle m'identifiaient comme un ou une des leurs, donc une juive sioniste installée là, mais en effet, en même temps, ne comprenaient pas pourquoi j'insistais sur mon appartenance à un groupe, puisque pour eux c'était un groupe inférieur, les Misraïm. Ils vivaient cela comme une espèce de trahison. Et c'est aussi ce qui m'a poussée, moi, à comprendre que, en effet, il pouvait exister, même dans cette colonie sioniste de Palestine, une société à deux vitesses et différentes façons de s'intégrer. Alors, je refusais ces accusations. Je remarque a posteriori que je n'étais pas vraiment à l'aise avec le terme Misrahi. Mais mon inconfort ne tenait pas tant aux hypothèses de celles et ceux qui me posaient des questions qu'au fait qu'il s'agissait là, en fait, d'identités fabriquées par l'enchevêtrement de différents régimes connus sous le nom de sécularisme, sionisme, colonialisme de peuplement et libéralisme de marché. Tout cela avait pour but d'affaiblir notre ancrage dans le monde de nos racines et la transmission d'une mémoire intergénérationnelle faite d'indices de savoir ou de savoir-faire contredisant le triomphe suicidaire d'un progrès qui ne peut pas s'arrêter. Le choix d'une identité, c'est un ancrage qui ne réussit pas, pourrait-on dire, chez Ariella et Chazoulet, puisqu'elle va repartir faire des études en France, puis aux États-Unis, et donc s'installer en tant qu'enseignante aux États-Unis. Mais continuons sur son vécu. Pourtant, lorsque je vivais encore dans la colonie sioniste de Palestine, je ne parvenais pas à percevoir les similitudes entre l'assignation de l'identité israélienne aux Juifs de Palestine et le processus par lequel l'identité française fut imposée aux Juifs d'Algérie. Créée par la nomenclature eurosioniste, la catégorie des Misraïm facilita l'incorporation des Juifs venus des pays musulmans, mais en tant que sous-groupe infériorisé au sein d'un peuple juif réformé dans la colonie sioniste comme rival fondamental des Arabes. Cette identité israélienne a ainsi joué un rôle instrumental de soutien à la destruction et à la colonisation, toujours en cours, de la Palestine. Spécifiquement, la production de la catégorie Misrahi a servi à la promotion de la qualification judéo-chrétienne comme vérité historique incontestable, impliquant de fait que toute trace du monde juif arabe ou juif musulman devait être détruite au même titre que la Palestine et la culture palestinienne devaient être sacrifiées. Cela a eu des implications considérables pour la survie de la diversité des Juifs au-delà des frontières de l'État établi en 1948. Ce n'est que lorsque j'ai quitté la colonie, construite comme État pour détruire la Palestine, il y a maintenant bien longtemps, que j'ai enfin pu rejeter pleinement les identités que l'on m'avait assignées à la naissance. J'ai alors pu comprendre le rôle joué par la catégorie d'identité israélienne, à la fois dans l'extinction d'un monde juif musulman diversifié, dans la migration des masses de juifs des différents pays, orchestrée et instrumentalisée, et dans la relégation vers le passé de leurs diverses attaches culturelles, à savoir leur langue, leurs artisanats, leurs traditions, leurs vêtements et même leur formation communautaire et familiale. Chacune des trois catégories identitaires faisait rupture, comme si la vie de ma famille paternelle en Algérie n'était plus la mienne, n'était plus moi. L'identité israélienne, fabriquée par les colonisateurs sionistes, définissait pour des Juifs diversifiés un mode commun d'appartenance. Elle fournissait au sujet de la société une version du passé qu'ils avaient été socialisés à accepter comme la leur. Tandis que rien dans l'histoire sioniste n'a jamais été ou n'est jamais devenu mien, il en va autrement de la culture occidentale qui était également privilégiée dans l'idéologie sioniste. Jeune étudiante en art, en littérature et en philosophie, je travaillais dur pour faire mienne toute cette civilisation et justement cette idéologie occidentale. Cependant, je ne l'ai jamais sentie mienne. Et l'invention de la catégorie Misrahi fut finalement nécessaire pour que je me comprenne, moi, comme différente. Le peuple juif, ce mythe unitaire au nom duquel toute pluralité devait être abandonnée, cette notion de peuple juif, elle avait été inventée en Europe à la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Elle avait été concrétisée par les appareils de l'État napoléonien et des autres États européens. Elle fut ensuite, en effet, exportée au Maghreb par la colonisation française en Algérie, puis en Palestine par la colonisation sioniste. Il y avait une véritable campagne de remplacement systématique des traditions juives locales par une standardisation du sionisme et donc du sionisme israélien. Les juifs algériens avaient en fait disparu au profit des juifs européens, puis des juifs israéliens. Grandir dans un état colonial de peuplement où les mensonges deviennent des faits implique soit d'ignorer les incohérences et de s'adapter à la réalité fabriquée, soit d'opter pour les désapprendre. En ce qui me concerne, la pratique du désapprentissage fut instinctive, bien avant son articulation théorique qui ne m'est venue que des années plus tard. Chaque jour, du cours préparatoire jusqu'à la fin de l'école élémentaire, l'institutrice entrait dans la classe, ouvrait le registre des présences et lisait à haute voix les noms de famille. Il nous désignait comme des enfants Misraïm, comme des descendants de familles nord-africaines, considérées dans la colonie comme inférieures. C'est drôle cette histoire de registre et d'appel des noms, ça me rappelle aussi, vous savez, ce qu'on disait en France justement, de l'appel des noms étrangers qui était toujours écorché par les instituteurs ou les profs, bah oui, parce qu'ils ne les connaissaient pas.
Il y avait une blague, Ben Haït.
Ouais. La blague, c'est, on vous la racontera un jour. Allez, on vous laisse avec un peu de musique pour changer de toutes ces choses pas drôles, un peu de musique berbère, justement, d'Afrique du Nord, pour mélanger ces cultures d'Afrique du Nord. démarrait bien comme ça, hein. Elle est belle cette musique. Enfin, c'est la fête et c'est la douceur, on en parlait tout à l'heure. Alors, on va reprendre l'histoire à la fois privée et presque publique de Ariella Ishaouzoulay. Et après, on parlera un peu des bijoux. Allons-y.
Quand j'ai eu 17 ans, me préparant à partir étudier en France, j'ai fait une demande de passeport français. Mon éligibilité à la nationalité française réaffirmait la francité de mon père. Si les histoires d'Algériens recevant la nationalité française me semblaient absurdes, j'étais ravie de pouvoir tirer parti de ce que la conjoncture historique nous avait durablement laissé, sans trop poser de questions. Pour moi, le passeport français ne pouvait pas être une identité. C'était un avantage dont je profitais. Je me lançais dans une intense correspondance avec l'administration française pour mener à bien la démarche, le contenu de ces documents n'ayant aucun intérêt pour moi. Seul comptait le passeport qu'il garantissait. Autrement, j'aurais dès ce moment pu remarquer que le nom de ma grand-mère maternelle, Aïcha, un nom commun aux Juifs et aux musulmans, avant aussi bien qu'après la colonisation française, nous avait été caché. Je n'avais pas conscience à l'époque du prix qu'avaient dû payer mon père et sa famille pour pouvoir devenir français dans l'Algérie du XIXe siècle. Mon éducation ne m'avait jamais amené à poser des questions sur leur francité ou leur algérianité, ni à interroger la façon dont l'État israélien avait placé hors de notre portée son Algérie natale. Être israélienne, être israélien, c'est également envisager les lieux dont sont originaires ses parents comme d'infimes détails biographiques qui ne servent qu'à remplir certaines cases dans des formulaires officiels ou à dessiner des arbres généalogiques, normalisant ainsi que nous sommes tous de partout. À cette époque, je manquais de mots pour dire que la citoyenneté française n'avait pas été donnée aux Juifs algériens, mais qu'on les avait convertis de force. Je manquais de mots pour dire en quoi cette conversion avait entraîné la destruction de milliers d'années de vie juive en Afrique du Nord. Personne n'avait à proposer ni détails ni fil conducteur. L'ignorance inculquée en bâillonnait beaucoup. D'autres étaient là en conséquence de la dissociation provoquée par les appareils de l'État colonial de peuplement. Je ne parle pas que de ma famille ou de mon entourage là où j'ai grandi, mais aussi des gens que j'ai rencontrés à l'université à Paris.
Ah oui, ça c'est intéressant. Elle parle de Bourdieu. C'est là qu'elle parle de Bourdieu ?
Nous allons voir ailleurs. Ça tout à l'heure. Je trouve, vous savez que je continue à lire. Je tourne la page normalement.
Non, là.
L'un des livres qui a fait mon éducation algérienne, tout en consolidant ma compréhension de la logique coloniale qui sous-tend l'écriture de l'histoire dès ses prémices, a été « Les trois exils, juifs d'Algérie » de Benjamin Stora. Mm-hmm. Dans une lettre ouverte que je lui ai adressée il y a peu, je contestais son adoption d'une temporalité historique qui pose la violence impériale comme irréversible, notamment concernant l'assimilation. Pour l'immense majorité des Juifs algériens, écrit-il, le temps de l'assimilation a accompli son œuvre, le retour en arrière est désormais impossible. Je fulmine encore et toujours face à cette position. Une telle impossibilité implique que sont à jamais perdues les trajectoires politiques délibérément défaites par la violence impériale. J'affectionne en revanche la complexité de son usage d'un terme spatial, l'exil, ni évident ni courant pour décrire le sens du décret Crémieux, pour penser ce qui a été fait à nos ancêtres en 1870, quand ils ont été transformés en citoyens. Voilà un acte radical de dénomination qui bouleverse son approche temporelle. Stora explique que cet exil est la rupture d'une vieille tradition liée à la terre d'Algérie, qui se discerne avant tout dans la perte progressive de la langue arabe chez les Juifs algériens. Ce n'est pas naturellement que les Juifs ont perdu leur arabe, mais bien par l'effet d'un régime colonial qui les y a contraints.
Oui, alors effectivement, elle parle de Stora. Bon, on sait que Stora, il a des positions tout à fait critiquables dans un certain nombre de domaines, ce qu'elle dit d'ailleurs aussi. Mais en tant qu'historien, il approche des notions qui sont quand même super intéressantes. Et la notion d'exil, on pourrait donc dire exil intérieur, pour des juifs sommés de se défaire de leur religion pour être français, ben c'est vrai que c'est très intéressant. Et oui, moi j'avais repensé à Bourdieu parce que je ne sais plus, à un moment, elle dit que justement pendant ses études en France, elle fréquente Bourdieu. Et alors que Bourdieu a lui aussi fait des études sur l'Algérie et qu'il a même passé 3 ans en Algérie à faire précisément des études, au lieu de faire son service militaire, parce qu'il aurait dû faire son service militaire, et il est allé, il a eu bien de la chance, il est allé faire des études d'histoire ou de sociologie sur le terrain au lieu de faire son service. Finalement, une fois qu'elle a fréquenté Bourdieu en tant que prof, ils n'ont jamais parlé de l'Algérie, alors que... ils étaient en train de devenir tous les deux, enfin lui l'était déjà et elle le devenait, des spécialistes de la sociologie de l'Algérie d'avant la décolonisation. Continuons. On parle maintenant de Fanon. Pour reprendre les termes de Fanon, bien que Fanon n'ait pas inclus les Juifs algériens dans sa description du syndrome colonial, pour reprendre les termes de Fanon, donc, mon père avait intériorisé le regard du colonisateur sur les autochtones algériens. En les percevant comme inférieurs, il avait voulu finalement s'affirmer en tant qu'homme français. Ma sécession de l'identité qui me fut assignée à la naissance cherche à réparer et à corriger cette violence coloniale qui mena mon père à se défaire de son appartenance à l'Algérie et à choisir une meilleure identité, l'identité israélienne. Deuxièmement, à la différence de mon père, je ne fais pas comme si mon lieu de naissance n'avait plus rien à voir avec moi. Je suis engagée dans la lutte pour l'abolition du régime sioniste qui continue à détruire les moyens de subsistance et l'existence même des Palestiniens et qui empêche leur retour dans tant de lieux possibles d'un monde juif musulman. Donc c'est intéressant de voir en effet cette similitude qui est dressée par une autrice sociologue et chercheuse. De la destruction de la culture, à la fois celle des Juifs d'Algérie par le colonialisme et celle des Palestiniens par le colonialisme sioniste en Israël. Oui. Et alors, on va passer à la deuxième partie du livre, la deuxième partie qui est consacrée spécifiquement aux souvenirs familiaux, à des lettres, à des documents qu'elle retrouve, et puis en même temps aux bijoux. Et cette deuxième partie s'appelle donc « Les Juifs sont encore là, dans chaque bracelet ». L'idée, c'est en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, que très souvent, au Maghreb, les bijoutiers étaient juifs. Bien sûr, ils ont transmis leurs compétences, leurs goûts, leurs qualifications à d'autres, mais enfin, il n'empêche. Et il y avait un genre de corporation, si on peut dire, de corporation des bijoutiers juifs du Maghreb. On a donc des illustrations qui nous montrent des ateliers et des illustrations, ça aussi c'est très intéressant. Vous savez, dans la première partie du XXe siècle, bien peu de gens avaient des appareils photos. Et dans beaucoup d'endroits étaient prises des photos, oui, des photos qui devenaient des cartes postales de lieux précis. Vous avez sûrement en mémoire ces cartes postales de rues, de villages ou de quartiers de ville en France où il y a le charcutier sur le pas de sa porte avec son personnel, le boucher, le boulanger, etc. Eh bien, en Algérie, il y avait des cartes postales qui représentaient les ateliers de tapisserie, les échoppes de bijoutiers ou les échoppes de ferblantiers, par exemple. Et puis aussi, ces cartes postales qu'on a vues, par exemple, au Mucem avec l'exposition sur Abdelkader, ces cartes postales qui représentaient, entre guillemets, le type juif ou le type arabe des populations algériennes. Donc, les cartes postales, ici, il y a celle d'un atelier qui représente, en effet, l'atelier boutique d'un bijoutier juif algérien. Et puis, il y a des photos de bijoux ou de femmes algériennes qui portent ces bijoux, avec en particulier cette tradition du percement de pièces. Alors, bien sûr, de pièces d'or ou d'argent pour les parures de mariage, les parures, disons, à sortir par les familles lorsqu'on a des occasions spéciales, mais aussi le percement de pièces du quotidien dans l'État français de l'époque. Et donc, les bijoux traditionnellement fabriqués avec des petites pièces, là j'en ai sous les yeux, sur lesquelles il y a écrit, par exemple, colonisation de l'Algérie. Une petite pièce en fer blanc, quoi, percée, une pièce de 5 sous qui est partie d'un bijou algérien fabriqué donc dans les années 30 ou 40 ou 50, on ne sait pas très bien. Quelques photos aussi des artisans à leur travail, quelques photos des boutiquiers dans leur boutique, et puis le fameux papier que Ariella Aïcha Azoulay retrouve, celui qui mentionne avec ses origines familiales le prénom de Aïcha Cohen, qui est donc celui de sa grand-mère. On revient au texte. On va lire des choses sur ce qu'elle dit des bijoux, là, oui.
En même temps que les colonisateurs détruisirent les corporations et les lieux où les différents métiers artisanaux étaient pratiqués en commun, ils dissocièrent les artefacts du monde social dont ils faisaient partie et classifièrent chaque objet comme étant de type juif, musulman ou berbère. Cela n'aurait pas pu se produire si les artisans et leurs enfants n'aient pas d'abord été détachés de leur milieu social et forcés à devenir des ouvrières et des ouvriers de leur artisanat industrialisé. La même conception taxonomique et exclusive utilisée pour refaçonner les identités, imposant le choix de l'un ou l'autre, a été utilisée pour effacer le monde en commun où ces artefacts avaient été fabriqués, les attribuant à un groupe tout en expropriant un autre. Ces classifications ont pu générer la mise en place de musées dans lesquels la séparation, notamment entre art islamique et art juif, semble naturelle et organique. Les artefacts, pourtant, résistent aux identités coloniales. Ils peuvent encore inverser les conséquences de la colonisation. Partout dans le Maghreb, l'orfèvrerie était le métier qui exprimait le plus vivement la place occupée par les Juifs dans la communauté précoloniale. La résistance des bijoux à l'identité coloniale binaire en témoigne. La machinerie coloniale a fait que les Juifs durent partir, non par force ni par choix, mais en conséquence d'une violence continue menée contre les indigènes. N'oublions pas que les Juifs en étaient aussi, et contre leurs objets.
Oui, c'est là donc qu'on trouve cette expression, la résistance des bijoux.
Il est temps de le dire clairement, pour enfin changer le langage. C'est la colonisation qui a déraciné les Juives et les Juifs algériens et les a forcés à partir. Disons-le autrement, les Juives et les Juifs n'auraient pas disparu d'Algérie si la colonisation n'avait pas cherché dès le départ à les arracher à leur culture, à imposer une binarité lisible opposant Européens et musulmans. Leur disparition n'est pourtant pas totale, comme la colonisation l'aurait souhaité, pour soutenir son fantasme judéo-chrétien. Même après 1962, grâce aux bijoux qu'ils avaient confectionnés, les Juifs sont encore là, dans ces joyaux gardés intimement portés par les Algériennes comme un héritage précieux.
Oui, c'est intéressant. Ariella Aïcha fait également référence au fait que les femmes algériennes, après l'indépendance, on leur a demandé de se séparer de leurs bijoux. Je lis son texte. Qu'on ait demandé en 1963 aux femmes algériennes, d'ores et déjà uniquement musulmanes, de se séparer de leurs bijoux et de les donner aux hommes d'État, d'où par contre nous faire frissonner. Bon, on leur demandait, oui, parce qu'on voulait fondre, l'or et l'argent des bijoux pour alimenter le, entre guillemets, le trésor de l'État. Durant des siècles, ces bijoux exquis étaient aussi leur assurance vie. Au besoin, les bijoutiers juifs qui les fabriquaient les fondaient également. Ils fondaient l'or ou l'argent comptant comme un système bancaire parallèle que juifs et musulmans ont toujours maintenu hors de l'État colonial. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que c'est vraiment souligner le fait que les bijoux, par le fait que oui, en effet, ils sont en or ou en argent et qu'ils sont fondus, fabriqués, refabriqués, etc., par des artisans totalement intégrés dans la population, ces bijoux, donc, constituent une espèce de trésor commun à la population. Et ce trésor commun à la population, il est suggéré par l'État algérien après 1962 qu'il soit remis à l'État indépendant d'Algérie pour financer un autre type de développement, bien sûr. Je continue à lire. Le pillage colonial s'est développé en spirale. Les objets pillés ont engendré des dessins. Les dessins, des planches muséales, et les planches muséales, une possibilité de travail pour les dessinateurs qui ont cherché, en effet, l'origine des objets. L'opportunité du travail a aussi formé les photographes. Les photographes qui sont partis en expédition, les expéditions qui ont nécessité à nouveau le travail de recherche des dessinateurs pour assister les photographes. Et la prise de vue a généré des séries de photos, des expositions et des catalogues qui ont permis à nouveau le redémarrage de la recherche. Les recherches sur les bijoux ou l'histoire des objets, ce sont d'autres expéditions anthropologiques, sociologiques, qui, comme les spécialistes le savent, reposent sur les bijoux et sur d'autres objets et qui permettent en effet de redonner aux femmes, de redonner aux filles, de redonner l'origine de ces bijoux aux femmes, aux filles, aux petites filles, qui ne connaissent plus forcément ses origines et à qui il faut à nouveau les raconter. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ces bijoux dont les femmes ont pu hériter, qu'elles ont pu donc toucher, dont elles ont pu se parer, se trouvent aussi en quantité dans les musées français, dans les musées britanniques, dans les musées américains, parce qu'ils sont étiquetés comme, en effet, des preuves ou des témoignages de civilisations qui, éventuellement, ont disparu et qui montraient bien, pour Ariella Aïcha Ouzoulay, qui montraient bien donc la coexistence de cette appartenance algérienne, arabe, juive et berbère, En Afrique du Nord en général et en Algérie en particulier. J'ai été plongée dans mon exploration de la vie juive musulmane interrompue en Algérie comme ailleurs, en même temps que je résistais à l'imposition de l'histoire qui nous avait été faite par la colonisation française puis la colonisation israélienne. J'ai résisté à l'histoire pour pouvoir retrouver les déviations qui s'étaient produites en effet entre les Arabes, les Juifs et les Berbères, comme si ils avaient été historiquement différents les uns des autres, alors qu'ils vivaient historiquement ensemble. Comme si la défaite d'Abdelkader n'avait pas été la nôtre. Comme si le sabre symbolisant sa reddition ne faisait pas partie de notre héritage. Avant la colonisation, l'intégralité de l'histoire mythologique de l'Algérie appartenait aussi aux Juifs, aux Berbères, quelles que soient les origines religieuses ou ethniques de la mythologie qui s'est ensuite mise en place. Dans le tableau de Vernet, qui représente la prise de Las Malas d'Abdelkader en 1830, il y a sur le côté un homme qu'on pourrait reconnaître comme juif et peut-être comme bijoutier juif qui semble fuir. Alors là, il y a l'image, hein, on peut retourner voir la reproduction de cet énorme tableau.
On l'a vu au Mucem.
Qu'on a vu au Mucem, en effet, sur la prise de Las Malas d'Abdelkader. Donc il y a un détail sur le côté du tableau qui montre un personnage juif avec ce qu'on appelait à l'époque un bonnet juif et qui semble fuir avec des objets précieux. Donc, nous dit Ariella Aïcha, le bijoutier juif, chez qui l'émir avait déposé son trésor pour le protéger des mains des Français, il réussit à sauver ce trésor, mais il est comme accusé de le voler, alors qu'en fait, il le remettra ensuite intact aux mains de l'émir devenu captif. Et nous sommes aussi, nous, captifs de cette imagerie antisémite utilisée par les Français en métropole comme en Algérie. En regardant la peinture de Vernet de la prise de Las Malas d'Abdelkader, encore accrochée à Versailles, pour bien montrer, enfin faire partie du roman historique français, les spectateurs sont poussés à croire que ce juif-là, il est en train de fuir avec l'or d'autrui, alors qu'il protégeait l'or de l'émir. Et tandis que ce sont les Français qui, en 1830 et après, les mains pleines de lingots d'or, ont brutalement saisi tous les trésors de la Casbah et de l'Algérie et se sont dépêchés de les rapatrier en métropole comme si de rien n'était. Voilà, c'est l'histoire, oui, des bijoux et de la résistance des bijoux. On va vous laisser avec ça. Vous souhaitez une bonne semaine. Et vous retrouvez mercredi prochain pour d'autres aventures. À bientôt. Bam kalou bam. Bam kalou bam. Bam kalou bam. Bam kalou bam.